Voilà, c'était la musique de Léo Delibes, ce fameux duo des fleurs de l'opéra Lacmé, Sabine Devielle et Marianne Crebassa, deux artistes lyriques formidables qui ont sensiblement le même âge. Elles sont dans la trentaine et représentent magnifiquement la jeune garde de l'opéra. Alors, ce duo des fleurs qui faisait partie du choix musical de Jean-François Lapointe, directeur du Festival d'opéra de Québec que nous avons reçu la semaine dernière. Et bien là, j'accueille Éric Champagne, compositeur et enfin celui qui signe la musique de l'opéra Yourcenar, une île de passion, présentée d'abord à Québec dans le cadre de ce festival. Alors, ce sera demain et le 30 juillet et ce sera présenté aussi à Montréal. Bonjour, Éric.
Bonjour, bonjour.
Alors, comment allez-vous avec cette... J'imagine vous êtes fébrile parce que c'est demain, là, que ce sera présenté.
Ah oui, extrêmement fébrile. On a eu la générale hier et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai une journée pour décompresser avant de me retrouver devant le public et de partager mon œuvre.
Être sans doute un peu rassuré aussi, j'imagine, parce que je doute pas que c'est vraiment formidable. Chose certaine, parce qu'on en dit beaucoup de bien. Et sachez que pour vous, c'est une aventure qui a commencé depuis longtemps.
Ben, ça fait environ 2 ans et demi que je travaille sur la partition. C'est sûr que les autrices du livret, elles ont entamé le projet en amont. Elles, ça fait encore plus longtemps. Mais oui, la durée fait en sorte que le projet, enfin, est concrété. Maintenant, on voit le résultat de tout ce labeur et de toutes ces réflexions pour le créer.
C'est ça. Donc, alors, on parle évidemment des deux librettistes. On parle de Marie-Claire Blais, malheureusement décédée aujourd'hui, qui n'aura pas pu profiter enfin de son travail pleinement. Mais enfin, et puis aussi Hélène Dorion, auteure bien connue également. Alors, les deux qui se sont réunis bien avant pour travailler sur cet immense projet. Alors, parler de cette dame, de cette femme, cette autrice, Marguerite Yourcenar, autre monument dans le domaine littéraire. Parlez-nous un petit peu de comment ce projet arrive à vous à un moment donné.
Ben, en fait, c'est Hélène qui m'a contacté en me disant « je suis en train d'écrire un opéra, j'aimerais savoir si tu serais intéressé à faire la musique ». Et ma première réaction, ça a été de dire « je veux lire le texte, je veux savoir dans quoi c'est pas l'histoire ». Mais il faut dire que j'avoue que Marguerite Yourcenar, j'avais lu quelques livres d'elle, mais je connaissais rien de sa vie privée. Et l'opéra est vraiment beaucoup plus axé sur son parcours de vie, sur
c'est
son
ça.
Expérience humaine.
Et sur une période, certaines périodes particulières, on en reparlera, oui, bien sûr.
Mais c'est ça, donc j'ai découvert le sujet, en fait, quand on m'a proposé le livret, puis j'y ai tout de suite ressenti beaucoup de résonance avec ma réalité, mes réflexions dans la vie, dans l'art. Il y avait quand même beaucoup de choses qui me rejoignaient, donc je me suis dit, oui, je peux mettre mon grain de sel, je peux mettre ma pierre dans l'édifice pour musicaliser ce propos et cette vie.
C'est ça, mais bon, s'attaquer à un opéra, quand même, c'était autre chose. Vous avez quand même beaucoup, vous avez beaucoup composé. Là, on peut parler que vous êtes un jeune compositeur, mais en fait, vous avez quand même pas mal de métiers maintenant. Alors donc, effectivement, vous avez quand même une vaste connaissance de la composition et tout, mais tout de même, s'attaquer à un opéra, est-ce que ça vous faisait peur un peu?
C'est l'ampleur qui me faisait peur parce que c'était pas mon premier opéra, c'est en fait mon quatrième, mais les trois premiers, c'était des opéras de chambre, de petit format. J'ai écrit un opéra qui durait une demi-heure, là je m'attaque à un opéra de 2 heures. C'est vraiment une autre proportion, une autre échelle. Donc, ce qui m'a fait peur, c'est un peu la proportion. Puis ce qui m'a le plus fait peur en réalité, ça a été la technique de travail. Parce que les deux maisons d'opéra, l'Opéra Québec et l'Opéra de Montréal, ont établi des calendriers de répétition, d'ateliers de création en amont de la version finale. Mm-hmm. Et moi, ça a un peu bousculé mes habitudes de travail. J'avais plutôt l'habitude d'écrire directement à l'orchestre. Et là, il fallait que je prévoie la partition voix-piano pour ces ateliers, puis que j'essaie de noter à côté tout ce que je voulais faire à l'orchestre pour pas oublier la chose. Donc, ça a été le côté un peu sortir de mes sentiers battus dans la technique de travail pour faire l'opéra. Mais au final, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que, en réalité, en musique classique, on a très peu de temps pour répéter. Donc là, j'avais non seulement du temps pour répéter, mais j'avais du temps pour expérimenter, pour corriger, pour améliorer, pour travailler l'œuvre, mais vraiment à fond et la peaufiner.
Ah là là,
donc,
quand même.
Oui, j'ai eu peur
tout un
dans
défi,
le processus,
ouais.
Mais avec le regard que je pose maintenant, ça a été une expérience vraiment enrichissante.
Ah, j'imagine très bien. Et puis, bon, s'attaquer à cet auteur aussi, cette œuvre qui est très vaste, hein, Marguerite Yourcenar, quand même, je ne sais pas, j'imagine vous vous êtes imprégné un peu de ces romans à la fois historiques, ses mémoires. Il y a plein de choses dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Et puis, bon, on peut plonger dans la mythologie, la spiritualité, le tragique. Enfin, elle a un style aussi très ciselé. Puis, toute cette influence de la Grèce, de l'Orient. Enfin, j'imagine que comme compositeur, ça vous a bien influencé tout ça.
Oui, mais en fait, j'avais déjà lu. Moi, j'avais découvert Mémoire d'Adrien quand j'étais au Cégep, donc c'était un de mes livres préférés. Donc je l'ai relu. Puis ça tombait bien parce qu'il y en a quand même beaucoup question dans l'opéra. Mais j'ai aussi, par le fait même, exploré une grande partie de sa production que je connaissais pas, que j'ai découvert pour l'occasion. Puis entre autres, tu parlais pendant de l'influence du Japon pour Yourcenar, il y a l'intérêt qu'il a porté à Mishima. Et entre autres, il crée un superbe essai sur Mishima, donc c'est aussi j'ai pu le lire. Puis il m'a par la bande particulièrement influencé pour une scène de l'opéra. Donc j'étais très heureux d'avoir à travers l'œuvre de Yourcenar développé des idées qui ont une répercussion dans la musique de l'opéra.
C'est ça. Puis ben là, c'est maintenant, on parle aussi de toute cette intimité. À la fois, il fallait que ça dégage. Ben, là, on parle de sa vie intime quand même. Alors, c'est vraiment, tout ça prend racine dans sa vie. Bon, sa rencontre avec Grace Frick, qui va être son amoureuse pendant un certain temps. Donc, et puis ensuite de ça, à la mort de Grace, ben, elle va aussi, elle sera avec un autre, un homme, Jerry Wilson, avec qui sera son compagnon dans la dernière partie de sa vie. Alors, c'est vraiment toute cette période-là que couvre l'opéra.
Oui, puis derrière, la période de Grace Frick est quand même longue. C'est presque 40 ans de la vie de Yourcenar qui est couverte par cette vie amoureuse. Et alors que la deuxième partie de l'opéra, c'est une période beaucoup plus condensée. C'était les 8 dernières années de sa vie, si je ne me trompe pas. Ce qui est fascinant, en fait, c'est que on a l'impression qu'il y a deux opéras en un, parce que chaque vie qu'elle a avec un compagnon ou une compagne est un monde en soi, une logique dramatique en soi. Puis en même temps, s'il y a une deuxième vie avec la mort de Grace puis l'arrivée de Jerry, mais il y a aussi beaucoup de réminiscences dans ses relations, dans la façon qu'elle gère ses déchirements entre une vie amoureuse et une vie créative. Donc c'est ce que je trouve intéressant comme ressort dramatique à présenter à travers l'opéra.
C'est ça. Donc,
en quelque part, me touchait beaucoup aussi personnellement. C'est des questions que je me pose dans ma vie personnelle. Comment allier une vie création, une vie amoureuse, c'est plus complexe qu'on peut le croire.
Ouais, c'est ça. Et enfin, donc, une romancière qui a marqué le monde littéraire du 20e siècle. Première femme à être élue aussi à l'Académie française.
Absolument.
C'est ça, hein. Ça a été toute une femme décédée en 1987 dans le Maine, d'ailleurs, pas très loin d'ici.
Pas très loin d'ici, effectivement, oui. Et elle est déjà revenue à Québec pour donner une conférence sur l'écologie. Ça, c'est un fait divers. À un moment donné, dans une étape de travail, on avait pensé l'inclure dans l'opéra, mais bon, ça n'a pas pu passer. Parce que sinon, on aurait fait un opéra de 4 heures. Il y avait tellement d'éléments dans sa vie qu'on aurait pu utiliser, mais il a fallu faire des choix. Mais ça, c'est quand même marrant. Elle est venue à Québec, et non pas pour des activités littéraires, mais pour prononcer une conférence sur l'écologie.
C'est ça, parce qu'elle était...
Parce que ça, elle avait des préoccupations très contemporaines, puis qui ont encore des échos aujourd'hui. C'est ce qu'on trouve intéressant de mettre en relief dans l'opéra. Donc, c'est pas juste l'autrice, c'est pas juste l'écrivaine et son œuvre littéraire, c'est aussi sa pensée, sa vision du monde, puis comment, à travers son œuvre, elle essaie d'éclairer des enjeux qui sont encore les nôtres aujourd'hui.
C'est ça, parce qu'elle avait un engagement social, c'était une féministe aussi. Alors, c'est ça. Donc, parlons de la distribution. En fait, quand même, une merveilleuse distribution.
Ouais, des chanteurs extraordinaires. Je suis tellement... choyer comme compositeur que ma musique soit entre leurs mains, ou plutôt entre leurs cordes vocales.
Oui.
Mais c'est plus précis. Mais ils sont extrêmement engagés, puis particulièrement Stéphanie Potier dans le rôle-titre. Elle est tellement investie, puis je sais que non seulement elle a travaillé énormément la partition, mais elle a aussi fait beaucoup de lectures. Elle a lu du Yourcenar, lu des biographies, elle a regardé des documentaires, des films, des documents d'archives. Donc elle a vraiment voulu s'imprégner de l'esprit de Yourcenar pour l'interpréter sur scène. C'était quand même costaud parce que sur l'opéra, qui dure à peu près 2 heures, ben, j'ai peut-être 1h58 sur scène. Donc c'est vraiment, c'est olympique, là, sa performance.
Ah oui. Ah oui. Et celle qui joue Grace, Kimmy McLaren, excellente aussi.
Elle est magnifique, je l'adore. Je la connaissais pas avant, juste de réputation, donc j'ai eu la chance d'apprendre à la connaître en la côtoyant pour la production.
Elle fait beaucoup de répertoire baroque, hein, je pense, cette dame.
Oui, je pense que la seule fois que j'avais entendu un concert, c'était effectivement pour des cantates de Bach.
Ouais.
Mais en même temps, elle aussi, comme Stéphanie, elle a fait ses recherches, elle s'est imprégnée. Elle m'a fait découvrir des trucs, elle m'a dit qu'il existait une biographie de Grace Frick qu'elle avait lue. Fait clairement aussi, je me suis senti touché de voir qu'elle était vraiment très imprégnée puis très impliquée dans la préparation du rôle. Puis elle est vraiment magnifique sur scène. Je tiens à le dire, entre autres, sa robe, là, elle est splendide dans ce costume. Je la trouve magnifique. Il n'y a pas juste la robe de magnifique.
Non, c'est ça. Hugo Laporte.
Oui, Hugo, lui aussi, quelqu'un que je connaissais de réputation, mais avec qui j'avais jamais travaillé, puis j'ai trouvé là aussi une belle voix, une belle sonorité, une grande musicalité, et un rôle qui est quand même plus complexe au niveau émotionnel dans son temps, parce qu'il est quand même trahi par des intérêts, des passions très très contraires et très très troublantes. Puis je les incarne sur scène de façon splendide. Mm-hmm.
Alors, Jean-Michel Richer, Pierre Encourt, Suzanne Taffo, je ne sais pas si je le prononce comme il faut.
Oui, c'est Taffo.
C'est Taffo, hein, exactement. Et puis, les violons du roi aussi, qui assurent la partie orchestrale, très important.
Oui, absolument. Puis, ils sont des musiciens exceptionnels. Donc,
ouais.
Voilà. Comme je dis, je suis chanceux, béni des dieux d'avoir une
Ouais, mais de toute façon, alors, vous êtes un compositeur de grand talent. Vous, en fait, un des compositeurs les plus en vue de votre génération, très certainement. Et puis, vous avez remporté de nombreux prix. Alors, pas étonnant et bien contente pour vous parce que je trouve que, vous méritez bien votre succès. Enfin, j'espère que ça va continuer puis que vous allez continuer d'écrire longtemps comme ça. Enfin, vous avez des projets, j'imagine. Là, ça faisait déjà un bon moment que vous travailliez là-dessus. Alors, c'est un projet qui vous a occupé depuis longtemps, mais là, j'imagine que vous êtes déjà sur d'autres coups.
Oui, puis d'autres coups qui ne sont pas dans le domaine de l'opéra, mais il y a des idées pour d'autres opéras qui se pointent à l'horizon. Alors, je reviendrai probablement dans ce beau monde.
Alors, cet opéra présenté demain et aussi le 30, mais aussi à Montréal, je pense que ça va être à la salle Pierre-Mercure, n'est-ce pas?
Exact, les 4 et 6 sous.
Éric Champagne, ça a été un plaisir de vous accueillir et je vous souhaite quand même de profiter pleinement de votre succès demain.
Merci beaucoup.
De ne pas être trop nerveux, surtout.
Oh, juste assez.
Juste assez, voilà. Tout à fait. Bravo et puis au plaisir de découvrir votre œuvre. Merci bien.
Bonne fin de journée.
Au revoir.